Bonjour à tous et à toutes. Bon, d'abord, je voudrais remercier ceux qui m'ont invité et financé et saluer tous les présents. Et aussi, je voudrais bien m'excuser la mauvaise maîtrise de votre langue. En 1909, le gouverneur de São Paulo a fait son discours annuel à l'Assemblée législative de l'État. Parmi d'autres affaires, il a insisté à montrer sa fierté de la police locale, la force publique. D'après lui, il s'agissait d'une véritable armée, o pequeno exército paulista, ça veut dire la petite armée de São Paulo, comme il l'a appelé. L'épithète qu'il a choisi à l'occasion soulignait, selon la rhétorique propre aux hommes politiques, d'abord l'état idéal que la police aurait dû atteindre, mais ces mots expriment aussi la doctrine directrice de l'institution, au moins depuis les débuts du régime républicain en 1889. Quelle est cette doctrine? Celle de la militarisation de l'appareil policier. Et cette doctrine représente l'aboutissement d'un processus commencé en 1892, lors de la première grande réorganisation légale de la police. Les gouvernements de l'État voulaient former une force policière capable de passer en puissance l'armée nationale. Pour y arriver, on a décidé de renforcer les méthodes empruntées aux militaires, telles que l'entraînement, la hiérarchie, la discipline, la logistique et l'éthos. Finalement, toutes les autres organisations policières de l'État de São Paulo sont passées sous la subordination de la force publique, y compris la police civile de la capitale qui suivait auparavant les modèles ilotiers des polices de Londres et Paris. Mais la cerise sur les gâteaux du gouvernement a été de demander en 1906 au ministère de la guerre de France une mission spéciale qui devrait forger la police de São Paulo selon les principes de Saumur et Saint-Cyr. L'intention du gouverneur de São Paulo était nette. Les contrats passés avec les Français demandaient bien des officiers de l'armée française. À son début, la mission française a été constituée de 4 membres. Le colonel Paul Bonney, son chef, le lieutenant Raoul Negrel et les sergents de la Brousse et Stadmüller. Les Français sont restés à São Paulo jusqu'en 1924, avec un hiatus pendant la Première Guerre mondiale. Dans leur bagage, ils ont apporté une toute nouvelle mentalité qui devrait désormais façonner la police de São Paulo. Ils ont beaucoup fait pour la professionnalisation de la force publique quand même. Par exemple, l'implantation de l'école d'éducation physique, de l'école de préparation des officiers, de l'école élémentaire pour les soldats et principalement la systématisation de l'entraînement dans un cadre très militaire, avec la création d'une section de mitrailleuses, des pigeons voyageurs, une armée de l'air et une école de soldats et la préparation de la cavalerie. Les gouvernements et l'administration de la police désiraient refaçonner l'esprit corporatif de la force publique. À leur égard, les buts opérationnels n'étaient plus ceux inhérents aux polices ordinaires, tels que le maintien de l'ordre public et les contrôles du crime. Ainsi, on a introduit un éthos militaire qui, vous savez, préconise la destruction de l'ennemi. L'arrivée de la mission française portait un message clair. Tout ce qui osait affronter l'État de São Paulo serait soumis à une riposte martiale. Ce pouvait être le cas du gouvernement fédéral avec son penchant interventionniste, mais aussi de la population, notamment la population ouvrière, qui depuis le début du XXe siècle a commencé à orbiter autour d'un mouvement organisé. Des chroniques de l'époque retracent l'allure guerrière qui a revêtu la force publique. À ces propos, un écrivain nous a laissé ses réminiscences d'enfance. Je le cite. Tous les samedis matin, la force publique quittait en uniforme les casernes à la mode de l'armée française en Afrique du Nord et faisait ses exercices au Champ des Mars. Avant l'arrivée de la mission française, la police de São Paulo et les polices du Brésil en général ne recevaient aucune instruction spécifique. Leur expertise se développait à partir de l'expérience sur le terrain, sans nulle connaissance formelle du service qu'elle prêtait. Au contraire, jusqu'à la fin du XIXe siècle et même après, le discours officiel remarquait l'incapacité et l'ineptie des policiers, considérés comme indisciplinés, paresseux et lâches. Les premiers rapports écrits par Balanhi, en guise de compte-rendu, décrivent la situation calamiteuse des troupes formées de quelques 4500 hommes. Je les cite. Sur 4 bataillons d'infanterie, 3 sont disséminés dans l'intérieur de l'État, un petit détachement chargé de faire les services des polices et des gendarmeries. Il résultait de cette situation que les troupes ne pouvaient pas être instruites, puisqu'elles n'avaient pas la possibilité de se réunir, et que les officiers ne commandaient absolument pas leurs hommes, qu'ils ne voyaient à peu près jamais en dehors du service des gardes qui constituait leur unique travail. Là encore, c'était la paresse et l'apathie qui étaient à l'ordre du jour. Il faut dire que les officiers français n'ont pas eu un bon accueil par leurs homologues brésiliens. Bien au contraire, l'imposition d'une nouvelle pédagogie et d'une rigueur au niveau des relations hiérarchiques conduisait à des situations très tendues, à tel point que le commandement de la force publique a dû renoncer à son poste. L'événement le plus dramatique a eu lieu en juin 1906, donc juste quelques mois après le début de la mission. En pleine caserne de la Luz, la plus grande de São Paulo, le sergent José de Mello a assassiné de 5 fois le lieutenant Raul Negrel. Ce crime a même mis en risque la poursuite de la mission à São Paulo. Quoique la presse et les enquêtes judiciaires suggéraient un acte isolé commis par un fou, le colonel Balanhi, dans ses rapports, exprimait sa méfiance pour cette conclusion et soulevait l'hypothèse d'un complot. Balanhi avait raison de suspecter une conspiration menée par les officiers, notamment par ceux qui ont éprouvé la perte d'autorité vis-à-vis du nouveau chef. L'imposition des formes inédites des commandements, où les relations paternalistes n'avaient plus lieu, dérangeait une partie importante du corps des officiers. Ainsi, malgré l'argent, l'énergie et les ressources investies dans la force publique, dans les premières années du XXe siècle, des recherches récentes dévoilent une réalité qui ébranle l'utopie du discours laudatif des autorités. Sous le tapis rouge de la rhétorique, on perçoit l'insistance d'une situation d'indiscipline, des désorganisations, des ruptures hiérarchiques, des exactions très semblables à celles de la fin de l'Empire. Toutefois, la mission française a désormais réussi effectivement et entamé un important changement des perspectives du rôle de la police, soit par rapport aux enjeux politiques, soit en ce qui concerne sa relation avec la population. Afin qu'on puisse comprendre cette mutation, je parle un peu maintenant en quoi consistait la mission de la force publique dans la deuxième moitié du XIXe siècle. D'abord, on peut affirmer que le processus d'indépendance brésilienne, qui s'est achevé en 1822, a été lié à la création des appareils judiciaires qui ont servi des champs de lutte, des différents projets pour la formation de la nation. La police et la justice ont fonctionné comme un locus privilégié où se sont combattus les idéaux de l'ancien régime et les nouvelles propositions du libéralisme. Au Brésil, les vagues de centralisation et décentralisation des systèmes judiciaires ont déterminé des variables politiques et administratives. Bref, les institutions juridiques et policières ont façonné les formes politiques. Dès les premières années d'autonomie politique brésilienne, la constitution des forces de police était à l'ordre du jour. Les ménagements de la cour portugaise à Rio de Janeiro en 1808 a mené la reproduction au Brésil de quelques institutions qui existaient déjà dans la métropole, comme l'intendência geral de polícia, celle-ci étant une copie directe de la lieutenance générale de police de Paris. Pourtant, ça n'a pas empêché qu'on a créé, dans les années suivantes, d'autres organisations policières qui s'adossaient au modèle, entre guillemets, disponible, l'anglo-saxon et les continentales. C'est dans ce contexte que les forces militarisées des polices ont été créées. Ces polices restaient sous une double tutelle. D'une part, elles se subordonnaient au ministère de la guerre. L'organisation, la rémunération et la distribution de l'effectif, pourtant, restaient sous le contrôle du pouvoir civil, notamment du gouverneur de l'État. Au XIXe siècle, les state building brésiliens obligeaient les gouvernements centrales à s'emparer du monopole de la violence pour l'extirper des mains privées. Pour imposer ses aspirations, l'administration publique, surtout à São Paulo, s'est servie des polices militarisées. Leur mission était d'abord de civiliser le petit peuple, très mal considéré, dont faisaient partie des esclaves, des ex-esclaves, des immigrants et des pauvres. Au 19e siècle, les corps militarisés des polices ont dû concrétiser ces projets civilisateurs en portant les drapeaux de la civilisation, comme le dirait Clive Hemsley. À ce moment-là, on reconnaît très nettement une inspiration gendarmique dans les forces de police au Brésil, surtout à São Paulo. La distribution des détachements dans les villes lointaines du centre politique, la représentation réelle et symbolique du pouvoir central, les intentions de pacification des communautés rurales. Ça veut dire que l'élan militaire n'avait encore pas pris la nuance guerrière qu'on connaîtra pendant le régime républicain. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, on ne reconnaissait les attributs militaires de la police qui, dans son organisation reproduite selon celle de l'armée et dans les rapports disciplinaires et hiérarchiques. Par contre, la population n'était pas encore reconnue comme ennemie. Ce sont Balaï et ses hommes qui ont marqué cette transition. Maintenant, je voudrais montrer quelques images et faire des commentaires. Donc, c'est la carte brésilienne avec l'État de São Paulo hachuré. C'est la carte de l'État de São Paulo. On voit toutes les villes concentrées à l'est de l'État. Et la partie ouest, c'était tellement dépeuplée. Donc, on l'appelait les terres inconnues ou Nabitec des Indiens sauvages, selon les rapports policiers. Ici, c'est un ensemble des uniformes de la police de São Paulo pendant le 19e siècle. On voit la police militarisée au milieu, ces deux types de milieu de l'image. Ici, c'est un rapport du colonel Balaï qui est trouvé aux archives de Vincennes. Le colonel Balaï, c'est le monsieur du milieu de l'image, de la photo. Ici, c'est une petite photo de lui. Ici, c'est la caserne de la Luz, qui a été bâtie selon le modèle des casernes françaises à l'Afrique du Nord. Elle existe aujourd'hui, c'est une photo récente. Ici, c'est la même image, mais prise en haut. Ici, c'est des représentations sur un hebdomadaire de la moitié du 19e siècle, qui montre les gendarmes, les policiers en train de boire un coup avec les forçats et l'image du côté, et ils dorment pendant qu'un type est dérobé. Ici, c'est l'entraînement de la mission française. Ici, c'est une image prise d'un manuel qui a été conçu par Balaï et introduit à l'entraînement de la police de São Paulo. Ici, c'est le cahier d'un étudiant de l'école de Caporal à la fin des années 1910. Ici, c'est la notice de la mort, de l'assassinat de Raoul Negrel par les quotidiens le matin. Et donc, je termine cet exposé avec une remarque très actuelle. Les chercheurs de la police brésilienne se posent une question intrigante aujourd'hui. Quel est le poids de l'héritage du militarisme originaire de la mission française et certes renforcé pendant les gouvernements dictatoriels? Est-ce qu'il peut expliquer la permanence de l'autoritarisme de la police actuelle, 25 ans après l'ouverture démocratique? C'est un thème pour les prochains colloques. Merci.